Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, Leorech Yamim Tovim Veshanim Neimim. Nous poursuivons notre étude du livre de prière. Nous sommes dans la première partie de la prière qui s'appelle les Korbanot, Olam Asiya. Nous sommes arrivés aux 13 principes de déduction des halachot de la Torah. Rabbi Ishmael Omer, Beyud Gimel Midot, Atorah Nidreshet. Nous sommes arrivés là au principe numéro 12. Davar alamed meignano, o davar alamed misofo. Déduction du contexte ou de la fin de ce contexte. Prenons un exemple. Selon Rashi, ces deux principes-là ne se font qu'une seule règle. Il est dit davar alamed meignano, o davar alamed misofo. Mais en fait, c'est un seul principe. Il dit, Réou, qu'Hachem natan lachem et à Shabbat. Bon, regardez, voyez, qu'Hachem vous a donné le Shabbat. Alken, c'est pour cela qu'il vous donne le pain de, il s'agit de la manne. Le sixième jour, il donne un double ration de pain. Aliyetse ish me mekomo beyom Shabbat. L'homme doit rester à sa place pendant le Shabbat, chez lui, qu'aucun homme ne sorte de son endroit le septième jour. C'est marqué un pasouk dans Shemot Tetvav, Tetzaïn, au sujet de la manne. Que signifie ce verset? Le verset ne veut sûrement pas dire qu'il ne faut pas bouger de chez soi le jour de Shabbat. Aliyetse ish me mekomo beyom haShabbat, ça veut dire qu'il va rester assis, il est à la maison, il bouge pas. Ça, c'est a priori, c'est pas acceptable. Il s'agit donc d'autre chose. Il s'agit de sortir en dehors du Tchoum. Les 2000 Ilia Minatora, 2000 coudées. Il y a Minatora, un concept de Tchoum, de sortir à l'extrémité de la ville et de dépasser la ville, un village par exemple. On arrive à l'extrémité du village, à la dernière maison. Et là, on va aller au village voisin. Non, mais non, est-ce qu'on a le droit d'aller d'un village à l'autre? On va traverser la campagne. On n'a pas le droit de dépasser 2000 coudées. Alpaim Amma. À noter que le Trom Shabbat est selon le Yerushalmi un din Torah qui mesure 12 000, à environ 12 kilomètres. Les Chachamim l'ont réduit à 2000 coudées qui sont à peu près 2 kilomètres. Un kilomètre et quelques, plutôt. Ce verset, pour être compris, doit être replacé dans son contexte. Précédemment, il était question de la manne, que les béné Israël devaient ramasser en dehors du camp. Donc, on comprend bien qu'il ne s'agit pas de ne pas bouger de chez soi, mais de sortir en dehors de la limite du camp d'Israël pour aller chercher la manne. Deuxième exemple. Dans les 10 commandements, il est dit, Lo tignov, tu ne voleras pas. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de voler un objet, de voler de l'argent, ou bien d'autres choses? Les Chachamim nous disent qu'il s'agit ici du kidnapping. Si quelqu'un, il va kidnapper un individu, et après il voudra le vendre ou le garder, peu importe, et ou bien la servir, il est passible de mort. Appliquons le principe qu'une loi doit s'appliquer selon le contexte. Alors, de quoi s'agit-il? Comme dans le contexte dans lequel cette halakha-là a été dite, lo tignov, elle est précédée par lo tirtsah, lo tinaf, tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'adultère, etc. Donc, on comprend que c'est là aussi, ce vol aussi est passible de mort. Donc, il ne s'agit sûrement pas de voler un objet. Parce que si on vole un objet, alors on est passible de rembourser le double. Si on vole un animal et qu'on lui fait la shaita, un gros bétail ou un menu bétail, si on lui fait la shaita, on remboursera 4 ou 5 fois selon le cas. Donc, pour comprendre vraiment le sens du verset Lo Tignov, qui est marqué dans les 10 commandements, on a besoin de le replacer dans son contexte. Troisième exemple. Voici les statuts et les ordres que vous prendrez garde de faire dans le pays que Hachem il a donné à vos pères. Tous les jours de la terre que vous serez vivant, est-il possible que les mitzvot ne vont s'appliquer que sur la terre d'Israël? Il est dit aussi tous les jours où vous êtes vivant. Si c'est ainsi, toutes les mitzvot doivent être appliquées même en dehors d'Israël. Même celles qui dépendent de la terre, comme par exemple la Trouma, le Maaser, la Shemitah, etc. Tout ce qui concerne la terre, la PA, glanure qu'on doit laisser aux pauvres, etc. Or, dans ce verset, il est précisé, « Ala adama, asher Hashem elecha noten lecha » que Hashem vous a promis. Alors, la Gemara s'interroge sur le fait que le verset élargit l'accomplissement des mitzvot en dehors d'Israël et qu'ensuite, il restreint l'application à juste Israël. Alors, que faire? Alors, la Gemara répond, « Regarde ce qui est dit dans ce même sujet. Vous détruirez tous les lieux où les peuples ont servi leur Dieu sur les hautes montagnes et sur les collines. De même que l'interdiction de l'idolâtrie est une obligation qui reporte sur l'homme indépendamment de toute autre chose. De même, toutes les mitzvot qui sont une obligation de la personne s'appliquent en tout temps et en tout lieu, comme par exemple les tefillin, la mezouza, le shabbat. Seuls les mitzvot qui dépendent de la terre, qui sont chovat karka, ne seront appliqués qu'en Eretz Israël et pas en dehors. C'est ce que nous disons d'avar alamed misofo, parce que ça c'est marqué à la fin du verset, ou bien un peu plus tard, comme le dit la Gemara dans Kiddushin à la page 37. Prenons un autre exemple. Le verset dit que nul de vous n'approche d'aucune proche parente pour en découvrir la nudité. L'otikrevo, les galotes, et herva, meakrovim. Ki ani Hashem Elohechem. Ce verset est un interdit global, mais on ne sait pas exactement sur quel cas il va s'appliquer. Les versets suivants précisent la nudité de ta mère et celle de ta sœur, celle de la fille, de ta fille, la fille de ta femme, etc. Donc ici, il est cité toute une liste qui vient de la suite, bisopho. Alors on va comprendre que le cas qui est interdit ne t'approche pas d'aucune proche parente. Il peut y avoir des cas où la proche parente, qu'est-ce qu'on appelle proche parente? Donc on a besoin de préciser. On peut se marier entre cousins. Un homme peut se marier avec sa nièce. Ils sont proches parents. Donc il s'agit bien de préciser, grâce au contexte et à la fin du vers et à la fin du contexte, de quel cas s'agit-il. 13e principe. Il y a parfois deux versets qui se contredisent. Alors comment trancher? Il faut apporter un troisième verset qui va trancher entre les deux premiers. Il est dit, exemple, premier exemple. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ici, il est dit clairement que le ciel a précédé la terre. Mais plus loin, au deuxième chapitre, il est dit, là-bas, il est dit, le jour où l'éternel Dieu a créé, voici les générations, et les toldot, à Shamaim ve'aretz, des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés, le jour où Hachem, Dieu, fit la terre et les cieux. Dans ce verset, la terre est créée avant les cieux. Donc les versets se contredisent. Premier verset, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Le jour où l'Éternel a créé le ciel et les cieux et la terre. C'est la terre avant le ciel. Donc ces deux versets se contredisent. Comment trancher? Qui est-ce qui a été créé avant? Il est dit dans Isaïe, sur au chapitre 48, qui a dit Asta Eret Vimini Shamaim. Il dit, c'est ma main qui a fondé la terre et ma droite qui a étendu les cieux. Je leur adresse mon appel et aussitôt ils se présenteront ensemble. Le prophète dit ici que Hachem les a créés, les cieux et la terre en même temps. Et ils se présenteront à moi, Hachem, devant moi en même temps. Donc le passouk, le troisième passouk dans Isaïe, il vient préciser qu'en fait, Eretz et Shamaïm ont été créés en même temps et au même instant. Deuxième exemple. Vous avez vu du ciel, Atem Reitem Kimina Shamaïm Dibarti Machem. Vous avez vu du ciel, que du ciel, Atem Reitem Kimina Shamaïm Dibarti Machem. C'est du ciel que j'ai parlé avec vous, vous l'avez vu. Et il est dit ailleurs, Panim Bepanim Diber Hashem Imachem Minaha Mitoch Haesh. Panim Bepanim, face à face, Hachem a parlé avec vous de la montagne, au milieu du feu. Alors ainsi, un verset dit qu'Hachem leur a parlé du ciel, et l'autre dit que c'est de la montagne. Alors on a besoin, est-ce que Dieu il leur a parlé du ciel ou de la montagne? Alors on a un troisième verset. Qui mina shamaim ishmiacha et kolo. Du ciel, il a fait entendre sa voix. Et asercha la adama. Pour te punir sur la terre, pour te châtier sur la terre. Et il t'a fait voir son grand feu et tu as vu ses paroles au milieu du feu. Donc ici, a priori, il n'y a pas de contradiction. Depuis le ciel, il t'a fait entendre sa voix. Sa voix! Il t'a fait entendre. Mais d'où il a parlé? Peut-être qu'il a parlé. La voix est arrivée jusqu'à la terre. Et il t'a fait voir son grand feu et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Donc le feu, il était sur la terre. Mais lui, il a parlé du ciel, mais toi, la parole, elle s'est faite entendre sur la terre. Troisième exemple. Le verset dit que les graisses sont interdites. Tous suifs. Helev, vedam, kol helev et kol dam lotochelo. Vous ne mangerez ni suif, la graisse interdite, ce qu'on appelle helev, et du sang. De ce verset, on tire l'interdiction des graisses de toutes les bêtes. Même les bêtes sauvages, comme les bêtes sauvages qui sont autorisées, c'est-à-dire les bêtes sauvages, des bêtes qui ne sont pas domestiques. Alors, comme par exemple le cerf, le daim, le chevreuil. Alors qu'ailleurs il est dit, toutefois, comme sont mangés le cerf et la gazelle, aussi tu mangeras le pur et l'impur ensemble. De ce verset, il semble que le cerf et la gazelle, tout est autorisé à la consommation. Bien que cela ne soit pas dit explicitement. C'est suffisant selon Rashi et le Ravad. A priori. Alors, donc du premier verset, Mashma, tout suif. C'est-à-dire, kol helev, toutes les graisses, tous les helev, alors quel que soit l'animal. Et du deuxième, Mashma, que des animaux comme le cerf et le chevreuil, on peut manger tout. Alors vient le troisième passouk pour trancher. Il y a marqué kol helev bakar. Alors il dit tout suif de taureau, de bœuf, de chèvre, vous ne mangerez pas. De ce troisième verset-là, nous déduisons que le suif des volailles, le helev, la graisse, il n'y a pas de graisse interdite dans les volailles, il n'y a pas de graisse interdite dans les animaux qui ne sont pas domestiques comme le cerf et le chevreuil. Donc on a besoin du troisième verset pour être machria. Est-ce que le helev, il est interdit partout ou il est interdit seulement dans les bêtes domestiques? Nous avons conclu à présent les 13 attributs, les 13 principes de déduction. Alors nous allons essayer d'expliquer et de les relier avec les 13 middot de Rahamim, les 13 attributs de la clémence. Alors il dit, nous disent Rahamim, ces 13 middot de déduction sont les conduits qui relient la Torah écrite à la Torah orale et mènent à l'accomplissement des mitzvot. Sans la transmission orale, aucune des mitzvot n'est réalisable. Le texte de la Torah écrite n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisamment explicite. Il ne donne pas suffisamment de détails. Par exemple, prenons la mitzvah de Mezouza ou celle des Tfilim. Elles disent, tous ces mitzvot-là comportent des dizaines et des dizaines de détails. Comment écrire la Mezouza? Sur quel support? Que faut-il écrire? Comment devons-nous l'écrire? Comment devons-nous placer la Mezouza? Tout ça n'est pas marqué dans le texte. Le texte écrit ne comporte que quelques mots à ce sujet. Urtaftam, al mezuzot, betecha, ou vishareha. Urtaftam, tu les écriras. Mais quoi? Je dois écrire quoi? Où je, sur quoi je dois l'écrire? Peut-être qu'il faut écrire directement sur la porte, sur le poteau, peut-être. Donc, on a besoin, de manière fondamentale, de la Torah orale, pour savoir appliquer les mitzvot. Prenons le cas de mitzvah tefillin. Alors, comment on a compliqué? Il faut, ukshartam, tu les attacheras sur ton bras et tu les mettras en fronton sur ta tête. Mais tu mettras quoi? Comment tu mets? Comment tu attaches? Avec une ficelle? Qui a dit que c'est une lanière? Comment on les place? Il faut les placer dans un parchemin, un boîtier, une coque de tefillin. Comment on sait qu'il faut quatre compartiments? Que dans la tête, il y a quatre compartiments? Et dans le bras, il n'y a qu'un seul compartiment. Comment on sait que les tefillines doivent être cubiques, parfaits, ou noirs, etc. Comment sait-on tout ça? Ça, on ne le sait pas. C'est pas marqué dans le texte. Donc, on sait, Chachamim nous disent, que les halakhot sont transmises oralement, comme nous l'avons déjà précisé. Tout la chokhma de la Torah orale consiste à relier ce qui est transmis, ce qui est su par transmission, et trouver, et relier cela à la source qui est dans la Torah écrite. À ce sujet, la Gemara dans Brachot dit, Amar Rabbi Levi Bahama, Beshem Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon Ben Lakish. Il est dit, Vayomer Hashem et Moshe, allez là et Ahara, il dit, monte vers moi sur la montagne. Et je te donnerai le hot à Even, les tables de pierre. Vea Torah, et la Torah. Vea mitzvah, et la mitzvah. Asher kataf, t'il est orotam, que j'ai écrit pour leur enseigner. Nous dit la Gemara, les tables de pierre, ce sont les 10 commandements. La Torah, c'est le livre écrit, l'écriture. Bien que, à ce moment-là, il ne lui donne pas l'ensemble de l'écriture. Comme nous l'avons dit, le Sefer Torah sera conclu. Le Sefer Torah est incomplet jusqu'au dernier jour de la vie de Moshe. C'est-à-dire, les 5 livres de la Torah, mais qui ne sont pas encore entièrement donnés. À mitzvah, nous dit la Gemara, mitzvah zu Mishnah. C'est la Mishnah. Il faut comprendre ce que ça veut dire la Mishnah. Que j'ai écrite, Asher Katafti, ce sont les prophètes et les hagiographes, Nevim Ketuvim, pour leur enseigner, leur faire grand Asher Katafti, les Horotam, c'est le Talmud, la compréhension des choses pour arriver à fixer la halakha. Notons, comme je l'ai dit, que le mot Mishnah vient traduire le mot mitzvah. Il a le sens d'enseigner, de répéter, il sous-entend la nécessité de nombreuses répétitions afin d'être correctement maîtrisé. Le savoir doit être maîtrisé. Ce sont les Shmuot, en fait. Mais le terme Mishnah a aussi le sens de Mishneh la Melech. Il est secondaire. Il est deuxième. Le sous-roi, vice-roi. Le second du roi. Si le roi, c'est la Torah écrite, alors le vice-roi, c'est la Torah orale. Ainsi, tout cela a été donné à Moshe au Mbéar Sinaï. Il est à noter que la Mishnah précède les prophètes et les hagiographes, alors que dans le sens historique, la Mishnah va être écrite et codifiée par Rabbeinu HaKadosh à l'époque du Deuxième Temple, à la fin, après le Deuxième Temple. Car en fait, c'est la transmission orale qui est appelée la Mishnah. Quand Moshe descend du Mont Sinaï, il leur enseigne une mitzvah. comme la Gemara dit dans Masechet Iruvin à la page 54. Seder, Seder, Mishnah. Comment on fait le Seder? Quel est l'ordre, le Seder de la transmission? Alors Moshe descendait et enseignait une halakha. Il répétait cela 4 fois. Il enseignait à Aaron. La halakha a été répétée 4 fois. Chacun des groupes qui pénétrait, alors au début il enseignait à Aaron. Après venait Aaron et ses enfants, et les Ekenim, et Am Israël. Donc à chaque reprise, tout celui qui était présent avait entendu, au fur et à mesure, l'enseignement 4 fois. Mais quel est cet enseignement? Alors, il y a une mitzvah à accomplir. Reprenons la mitzvah de Mezouza, par exemple. Alors, quand Moshe leur enseigne la mitzvah de Mezouza, alors il leur enseigne tous les détails, toutes les halakhot, le parchemin, il faut faire des traits dans le parchemin. On ne peut pas écrire sans graver un trait pour écrire. Shirtout, comment on écrit la forme des lettres, la qualité de l'encre, qu'est-ce qu'on écrit, dans quel ordre on écrit, etc. Les dinim, tous les détails, il faut écrire ketivatama, il faut écrire dans l'ordre, on peut pas. Et si on se trompe et on revient, on efface, on peut pas. Kesidran, etc. Toutes sortes de halakhot complexes. Et ça, il leur montre. Il leur montre non seulement ce qu'on doit comprendre, c'est comme Moshe explique. C'est en 3 dimensions. Les paroles de Moshe sont, aux yeux d'Israël qui entend, ce sont des paroles qui sont en 3D. C'est-à-dire, on voit la chose de manière claire. C'est ça, la transmission. Donc, ils ont la transmission. Et ils savent la halakha. Tout ça a été donné. Au fur et à mesure des générations, il faut retrouver la source de cette halakha-là, claire et limpide de transmission, dans le texte de la Torah. Ça, c'est le biur de Torah orale. Les 10 commandements contiennent, en fait, toutes les mitzvot, les 613 mitzvot. Il y a 620 lettres dans les 2 versions des 10 commandements, bien qu'elles soient, qu'il y a des nuances dans les versions, qui font référence aux 613 mitzvot mina Torah, et les 7 lois des Rabbanan. Le Midrash dit que tous les détails de toutes les mitzvot étaient gravés entre les différents commandements. Même dikdoké sofrim, ce que les sofrim vont venir ajouter, c'est marqué là-bas. Le texte de la Torah contient le sens simple, le pshat. Mais lui-même est la fenêtre qui s'ouvre sur d'autres horizons. Le texte de la Torah est loin d'être une histoire ou juste un recueil de lois. Il comprend 4 niveaux de lecture et de compréhension. Les initiales, dont les initiales vont donner le mot pardes, le fameux verger de la connaissance. Le sens littéral, pshat, puis vient l'allusion, le remède, puis vient l'interprétation, le drouche, et enfin vient le secret, le mystère, le sod, les raisons profondes des choses. La Mishnah permet l'application des mitzvot, qui viennent, puis viennent les prophètes et les hagiographes, Nevi'im Ketuvim, qui préparent à la transmission orale. De même que le 5e livre de la Torah, qui est le Devarim, Sefer Devarim, fait le trait d'union entre les 4 premiers, et après la disparition de Moshe, il va y avoir la Torah orale et les prophéties par Yoshua. Donc il fait le trait d'union. Puis vient le Talmud. Puis vient la compréhension des choses en les réunissant à leur source de l'écriture. Rabbeinu Hassid, Rabbi Moshe Haim Lutzato, Hassid Eloki, dans son Ma'amar HaChokhma, Ma'amar HaIkarim plutôt, il dit la chose suivante. Il faut que tu saches que l'essentiel de toutes les lois de la Torah, les mitzvot positives comme les interdits, ont été transmis depuis Moshe. Cependant, les maîtres savaient que toutes ces mitzvot et leurs détails étaient mentionnés de différentes manières dans la Torah écrite, par toutes sortes d'allusions. La volonté d'Akadosh Baruch Hu est que nous recherchions les attaches de la mitzvah transmise et des lois avec leurs sources dans le texte pour les relier, pour pénétrer la vraie compréhension du texte, c'est-à-dire l'intention de Dieu quand il les a écrits. C'est ça la kavana rishona quand Akadosh Baruch Hu, il a dicté la Torah à Moshe Rabbeinu. Pour cela, il est obligatoire d'utiliser les moyens qu'il lui-même nous met à notre disposition. Et uniquement cela. Quels sont-ils, ces moyens? Les yud gimel midot de déduction. Be yud gimel midot à Torah nidreshet. Je poursuis. Nos maîtres, en particulier Rabotenu, Baalei Chochma, font un parallèle entre les 13 attributs de clémence et les 13 midot de déduction. Dans le Zohar, sur Vaïkra, à la page 62, il est dit, Rabbi Shimon Patah Ve'ama ouvrit son propos et dit que les hommes pieux, Yirim Ushlemim Hasidim, exultent de l'honneur qu'ils ont. Ils entonnent des chants et sur leur lit de repos, nous avons appris que les 13 midot se lient à la Emouna pour que les bénédictions se répandent sur nous. La Emouna en Hachem, la foi, est entièrement enfouie en trois piliers qui sont Heder, Hesed, Din et Rahamim. Le Hesed, la bonté, l'amour, la justice et la compassion et l'harmonie qui fait l'harmonie entre les deux. L'harmonie, c'est le bâton de Moshe. C'est-à-dire, pourquoi le bâton s'appelle bâton qu'on va donner au moment du dévoilement à Kadosh Baruch Hu, va lui dire, qu'est-ce que tu as dans la main? J'ai dit, j'ai un maté, un bâton. Maté, c'est étonnant, le mot bâton, il s'appelle maté. Mais quelle est la source, la racine du mot maté? Maté, c'est les atot, faire pencher. Donc il y a, c'est le Koah HaTorah, nous dit le Gaon. Le bâton, c'est la force de la Torah. Qu'est-ce que la Torah? C'est savoir trancher. Il y a, sur chaque chose d'enseigner, chaque chose que Moshe va recevoir, il y a 49 facettes à droite, 49 facettes à gauche. Même tête, panim, taor, même tête, panim, tamé. Chaque chose a deux facettes. Mais 49 d'un côté, 49 de l'autre. Et le bâton de la Torah doit pouvoir trancher ce qui est bon et ce qui est une erreur. C'est pour ça que Maté s'écrit même tête, 49. Et le Hé, à la fin, c'est celui qui va mettre l'équilibre et trancher la halakha du bon côté. C'est le sens du mot Maté. Pour cela, la Torah est couronnée de 13 midot de déduction qui sont cités dans la Baraita de Rabbi Ishmael, le Kal Vachomer, la Gzera Shava, etc. Quand Yaakov a voulu bénir ses enfants par la Emouna, ils étaient 12. Alors la Shechina aussi s'est associée à eux, ça fait 13. Les 13 midot de déduction sont liés à leur source, qui sont les 13 conduits des attributs de miséricorde, les 13 attributs de la clémence par lesquels est dirigé le monde. En les étudiant, les 13 midot de déduction, et en sachant les relier à leur source, on réveille les 13 attributs de miséricorde. Quand Moshe prie pour la guérison de Myriam, il invoque le nom Ana El Na Refanala. El. L'El, c'est le premier des attributs de miséricorde. Et de suite, Hachem lui transmet la première Mida. Quel va Homer? Et c'est là-bas que nous avons appris, revenons à comment nous avons expliqué le Kal Vachomer. D'ailleurs, l'avant minadin liot kanidon. Il est suffisant d'appliquer, au cas que je veux déduire, la règle qui est fixée par l'exemple que je prends. Donc, on remarque que la mida de El est liée au Kal Vachomer. C'est aussi la raison pour laquelle on ne peut déduire des sanctions. El onchin minadin, nous dit la Gemara. On ne peut pas faire un Kal Vachomer pour apporter une sanction. Pourquoi? Parce que le Kal Vachomer, à sa source, il n'est que bonté et amour. Quand on étudie chacune des midot, on réveille la source de cette mida. Le Talmud, la Gemara, étant l'expression de ces midot, notre étude est qualifiée de Torah Hesed. C'est ça le pirouche, que la Torah est une Torah de bonté et d'amour. Parce qu'elle fait découler en ce monde, elle permet de déverser en ce monde l'amida de Hesed, la bonté, la vie, l'amour, la possibilité de vivre et d'avoir une vie agréable. Moshe a demandé à Hachem de lui faire savoir sa gloire. Hachem lui répondit, « Arenina et kevodecha. » Et Hachem lui dit, « Va'ania avir kol tuvi alpanecha. » Je ferai passer devant toi ma bonté, toute ma bonté. Et je proclamais, « Vekarati b'shem, Adonai lefanecha. » Et j'appellerai, je proclamerai le nom du Tout-Puissant, Hachem éternel, Yotkevavke, devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Orachaim HaKadosh y explique que cela signifie les attributs par lesquels je fais le bien aux créatures, les 13 attributs. Je les nommerai chacun de ces attributs, chacune de ces qualités, de son nom. Chacun, il a un nom précis. El, Rahom, Hanun, etc. Ou bien Miel, Kamocha, Noseravon. Et c'est l'ensemble qui est appelé le nom de Dieu, Yotke Vavke. Et l'ensemble des attributs portent le nom de Katet, Yotke Vavke. Ce sont les 13 conduits de miséricorde qui se relient à leur source en reformant le nom. C'est ce que le Zohar appelle la Emouna. La Emouna, c'est pas juste un sentiment de croire, c'est la connaissance, l'attachement profond de la Torah à sa source, à travers la compréhension des choses. L'unicité, ce qui amène l'unicité, l'unité totale des hauteurs, la source de toutes les bénédictions, c'est le nom tout-puissant d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça est plus ou moins accessible et développé par Rabbi Menachem Azariah Difano dans le Sefer Amidot. Il a un livre particulier qui s'appelle Sefer Amidot, dans lequel il développe et il explique les 13 attributs de miséricorde reliés, il les relie aux 13 Midot par lesquels la Torah est commentée. Donc, il est d'une importance capitale pour nous de comprendre que l'étude de la Torah est une Torah de vie, une Torah de Hesed. C'est en étudiant la Torah et en comprenant profondément, en essayant de comprendre, surtout avec la kavana, de faire en sorte que cette Torah que j'apprends, que j'étudie, à laquelle je m'adonne, qu'elle fasse, que grâce au labeur, aux efforts que je fais pour la comprendre, les énergies de vie et de bonté des 13 attributs de miséricorde se développent et se répandent dans ce monde. Nous avons conclu à présent la Baraita de Rabbi Ishmael. Les 13 attributs-là sont le pont, sont le trait d'union qui va se passer maintenant entre le monde des Korbanot, le monde de l'action, qui est au niveau le plus bas, qui va être lié au niveau du chant, qui est un niveau supérieur, le monde du Ruach, l'exaltation du chant de David Améler. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen.